Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un enseignement assez riche de Bertrand Frémont. Il est de la mission de la possession et ça concerne les bases du mariage. Les documents qu'on a, ils parlent du mariage vu comme une institution divine, mais aussi des défis d'aujourd'hui, de l'importance de la communication, comment gérer les conflits, retrouver l'intimité et même le rapport aux belles familles. On va essayer d'en tirer le suc, quoi, les idées pratiques. Allez, on y va.
Oui, tout à fait. En fait, l'enseignement part d'un constat, hein, le mariage serait fragilisé aujourd'hui. L'individualisme, la banalisation du divorce, un manque de préparation aussi souvent. Du coup, la perspective ici, c'est de remettre Dieu au centre. Il y a cette citation du psaume 127, hein, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ». C'est un peu la clé de voûte de sa pensée.
Intéressant. Et il y a un passage qui m'a marqué, c'est la description des trois phases types du mariage. D'abord, l'enchantement. Il est parfait, elle est parfaite.
Ah oui, la phase tout beau, tout rose.
C'est ça. Puis, le désenchantement, le fameux « Seigneur, mais qui tu as mis à mes côtés ?» Apparemment, c'est là que ça casse souvent. Et enfin, si on passe ce cap, la maturité. Ok, maintenant je te connais vraiment.
Exactement. Et ce passage du désenchantement à la maturité, ce n'est pas vu comme négatif. Au contraire, c'est nécessaire pour bâtir quelque chose de réel, qui accepte l'autre avec ses qualités et ses défauts. C'est pour ça que l'enseignement insiste beaucoup sur le fait de travailler sur soi avant de vouloir changer l'autre. La fameuse histoire de la paille et de la poutre dans l'œil, tirée de Matthieu. C'est un appel à l'humilité, quoi.
Oui, et une fois qu'on est un peu plus au clair avec soi-même, la communication vient centrale, c'est ça ? Pour éviter de rester chacun dans son coin, il explique que hommes et femmes ne communiquent pas pareil.
Effectivement, il aborde ces différences.
Est-ce que ça risque pas de devenir une sorte d'excuse ? Genre, ah bah oui, c'est normal qu'on se comprenne pas, il est comme ci, elle est comme ça.
C'est une bonne remarque. Mais je crois que l'idée, c'est moins de s'en servir comme excuse que de le savoir pour faire l'effort d'écouter vraiment l'autre. L'écoute active, c'est décrit comme un acte d'amour. Il détaille même les obstacles, hein. Nos filtres, nos mauvaises habitudes, genre celui qui rassure tout le temps ou qui donne des conseils sans arrêt.
Ah oui, le donneur de leçons.
Voilà. Et il propose des pistes. Accorder toute son attention, essayer de capter l'émotion derrière les mots, vérifier si on a bien compris et surtout demander « Ok, là, tu attends quoi de moi ?» D'ailleurs, il parle aussi de la prière en couple comme un ciment très fort. Il cite même une étude qui dirait que le taux de divorce chuterait énormément chez les couples qui prient ensemble.
Et quand ça coince malgré tout, les conflits, il utilise des images assez fortes, non ? Le rhinocéros qui fonce tête baissée.
Oui, et le hérisson qui se roule en boule.
C'est ça. L'enjeu, selon lui, c'est de sortir de cette espèce de guerre de tranchées. Il propose même une méthode en 6 étapes pour négocier. Choisir le bon moment.
Oui, pas quand on est sous le coup de l'émotion.
Bien cerner le problème réel. Discuter du problème, pas attaquer la personne.
Éviter les étiquettes. T'es toujours comme si.
Tout à fait. Respecter le temps de parole de chacun. Et surtout, chercher des solutions ensemble, pas un gagnant et un perdant.
Ça demande une certaine vision du mariage, j'imagine.
Oui, il insiste sur l'idée d'engagement actif. Le mariage, c'est servir son conjoint et pas se servir de lui ou d'elle. Et cet engagement, il doit être nourri par un amour qu'il appelle agape.
Agape, oui. Un amour qui aurait l'air de la décision, inconditionnelle en quelque sorte. Différent de l'affection amicale, la philia, ou de la passion éros, qui peuvent fluctuer. Il cite Benofer, « Ce n'est pas l'amour qui maintient le mariage, mais davantage le mariage qui soutient l'amour. » Ça résume bien.
D'accord. Et pour que ce mariage soutienne l'amour, il faut le protéger, j'imagine. De la routine, du stress.
Exactement. Il met en garde contre ce qu'il appelle l'activisme, quand on court partout et qu'on finit par devenir de simples colocataires. Il insiste, il faut mettre du temps à part pour le couple, consciemment.
C'est là qu'interviennent les langages de l'amour, peut-être. Connaître comment l'autre se sent aimé.
Oui, il y fait référence aux travaux de Chapman. Et il parle aussi des 4 A. Le besoin d'affection, d'attention, d'admiration et d'acceptation. Des besoins fondamentaux à nourrir mutuellement.
Et le dernier point abordé, c'est les familles d'origine. Souvent un sujet sensible.
Oui, très. Il rappelle le passage de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère. Pour lui, c'est fondamental que le couple crée son propre espace, son autonomie. Ça veut dire poser des limites claires, prendre les décisions importantes à deux, se soutenir face aux pressions extérieures. Et aussi, un point clé, pardonner les blessures du passé liées à la famille, pour ne pas qu'elles polluent la relation actuelle.
Ça demande aussi un travail sur soi, de guérir ses propres blessures d'enfance, peut-être.
Absolument. Comprendre sa propre valeur, son identité dans la perspective de la foi qu'il propose, ça aide à avoir des attentes plus réalistes et moins fusionnelles vis-à-vis du conjoint.
Donc, si on essaye de résumer cet enseignement de Bertrand Frémont, le mariage réussi, ça demande un engagement conscient, pas mal de travail sur soi.
Oui, de l'humilité.
Une communication et une écoute vraiment intentionnelles, savoir gérer les disputes de manière constructive.
Protéger l'intimité du couple, s'appuyer sur une dimension spirituelle si on y est sensible, et bien définir son autonomie par rapport aux familles.
C'est ça, c'est exigeant, mais ça donne aussi des pistes concrètes, porteuses d'espoir.
Effectivement, l'accent est mis sur la croissance ensemble et sur la grâce, la possibilité de recommencer, de réparer.
Bon, ça nous laisse pas mal de choses à méditer. Peut-être une dernière petite piste de réflexion pour celles et ceux qui nous écoutent. Si cette semaine, on essayait juste, comme le suggère l'enseignement, de se focaliser un peu plus sur la poutre dans notre œil plutôt que la paille dans celui de l'autre, quel petit changement ça pourrait initier, juste ça?